Vous avez peut-être eu l'expérience avec quelqu'un, un ami ou un proche, quelqu'un que vous connaissez bien, et puis un jour vous découvrez tout un volet de sa vie que vous ne connaissiez pas avant. Parfois c'est un grand-parent qui a peut-être fait la guerre et qui n'en a pas parlé pendant des années, et on découvre que, en fait, il a eu beaucoup d'expérience, il a fait beaucoup de voyages, et je ne l'ai même pas su. Et on commence à apprécier qu'il y a des profondeurs à des personnes, et il y a des amitiés que, quand ça continue dans le temps, on découvre encore plus et encore plus de ces personnes. Ce qui est vrai entre les humains est encore plus avec le Seigneur Jésus. Personne ici, je doute, dirait « Ah, je connais tout concernant Jésus-Christ. Je connais toutes les facettes de sa personnalité, tous les différents aspects de son caractère. » On peut revenir année après année et considérer que sa naissance, mais considérer sa vie terrestre et découvrir encore de nouvelles chose. J'espère que vous avez comme but, pour célébrer Noël cette année, de découvrir encore plus de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'aimerais adresser un aspect de sa personne que parfois nous ignorons, même en tant que chrétiens. Je considérais Jésus dans son rôle de prophète. Et j'aimerais le présenter comme ceci. Vous êtes en Jean chapitre 1, regardez verset 19, où nous avons le témoignage de qui? De Jean. Jean qui était un prophète, le plus grand d'ailleurs des prophètes. Et voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ ou qu'il n'était pas le Messie. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, « Qui dis-tu que tu es ?» Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils lui posèrent encore cette question, verset 25. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie ou le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Notez ce que Jean dit de lui-même au verset 22. À la fin, il pose la question, « Es-tu le prophète ?» Et il dit non. Verset 25, ils posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean n'était pas le prophète. Il était un prophète, mais il n'était pas le prophète. Alors, est-ce Jésus qui est ce prophète? Et je veux commencer comme ceci, Jésus est-il le prophète? Ce premier point est formulé comme une question, parce que nous n'avons pas encore de réponse. On cherche ensemble à savoir si Jésus est ce prophète. Et nous voyons, je vais vous lire plusieurs passages ici, des spéculations sur le rôle prophétique de Jésus. Vous lisez les évangiles, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, des spéculations sur le rôle prophétique de Jésus. Par exemple, après la résurrection du fils de la veuve de Nain, Luc 7 verset 16 dit « Tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Ils voient en Jésus un grand prophète. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, en Jean 4, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Ce qu'elle reconnaît en Jésus, il est prophète. Dans un entretien qu'il a eu en privé avec ses disciples, c'est raconté en Luc 9, un jour que Jésus prie à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Mais qui suis-je au dire des hommes ?» Et ils répondirent, ils donnent à Jésus les idées de l'époque concernant Jésus. Jean-Baptiste, certains pensaient qu'il était même Jean-Baptiste qui avait été tué récemment. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire en Jean 9, quand il y a un jeune homme aveugle qui est guéri. Et il souffre un peu à cause de ça, à la part des Juifs. Et il y a une division entre eux, et ils ne se mettent pas d'accord sur qui est vraiment Jésus qui a fait ce miracle. Et donc, il demande encore à l'aveugle, maintenant qu'il est guéri, « Toi, qui dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux ?» Et il répondit, « Voici la seule chose qu'il peut dire. Je sais qu'il est prophète. » Et si nous avançons jusqu'après la mort de Jésus-Christ, il y a deux personnes, un homme et une autre personne avec lui, et ils rentrent sur le chemin d'Emmaüs et quelqu'un vient à leur rencontre. Ils ne savent pas que c'est Jésus, mais c'est un inconnu pour eux. Et on leur demande, il leur dit, « À quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là ? Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. » En œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Vous voyez comment il était reconnu, un homme, un prophète puissant en parole et en œuvre. Nicodème, quand il vient devant Jésus, la nuit de peur pour sa réputation, il commence en disant à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Ça veut dire un docteur, un enseignant, il veut dire. La Bible en français courant le dit bien, maintenant nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Tu as un enseignement divin. C'est le rôle d'un prophète de donner un enseignement de la part de Dieu. Mais Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs, selon Jean 3, 1, était en fait l'exception parmi les pharisiens. La plupart des pharisiens remettait en question, voire il niait la possibilité que Jésus puisse être un prophète. En Luc chapitre 7, quand Jésus est dans la maison d'un des pharisiens qui s'appelle Simon, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, c'est une femme prostituée qui vient laver les pieds de Jésus et dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche ? Il saurait que c'est une pécheresse. S'il était prophète, vous voyez, il rejette cette possibilité. Jésus, selon lui, ne peut être prophète. Et dans un rassemblement de chefs religieux, quand Nicodème suggère timidement qu'il ne faut pas juger Jésus avant de l'avoir entendu, en Jean 7, verset 52, ils répondirent à Nicodème avec cette insulte, hein, « Es-tu aussi Galiléen ? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Vous voyez, ils ont leur idée de ce qu'un prophète. D'abord, il va savoir que c'est une femme pécheresse, il ne va pas la laisser toucher ses pieds, et il ne peut pas venir de la Galilée. Mais certains sont allés jusqu'à spéculer non seulement que Jésus était un prophète, mais qu'il était le prophète. Le prophète. Et j'aimerais, dans vos Bibles, que vous trouviez ces passages avec moi. Jean 6 et puis Jean 7. Ça, c'est des spéculations sur l'identité de Jésus comme le prophète. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein, mais il y a une différence entre un prophète et le prophète. Il y avait une anticipation que le prophète allait venir. Et après ce miracle raconté dans les quatre évangiles de la multiplication des pains, Jean 6, verset 13 dit « Ils ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment quoi ?» Oui, c'est l'article défini ici. Il est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le prophète qui doit venir dans le monde. Ils ont déjà une idée très précise qu'il y a le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il veut faire de ce prophète leur roi. Notez comment tout tourne maintenant au chapitre 7. Vous pouvez trouver vers chapitre 7, verset 40. Sur les paroles de Jésus et sur son identité en tant que prophète. Tout tourne sur cette idée des paroles de Jésus. Jean 7, verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment qui ? Il est le prophète. Ils ont entendu des paroles, ils disent, ces paroles nous indiquent qu'il est le prophète. Mais d'autres disaient, 41, c'est le Christ, le Messie. Et d'autres disaient encore, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Bon, il y a du vrai et du faux dans leurs propos. Vous voyez, souvent c'est comme ça. Hein, les gens même ne cherchent pas à connaître les faits. Je me rappelle, j'ai parlé avec quelqu'un ici de Jésus-Christ et de la Bible. Il a dit, ah non, la Bible, il y a beaucoup d'erreurs. Je dis, ah oui, vous avez lu la Bible ? Non, je n'ai pas lu, mais... J'ai vu une émission à la télé où ils ont parlé à la Bible, ils ont dit qu'il y avait plein d'erreurs. Ah, j'ai dit, donc vous croyez tout ce qu'on vous dit à la télé. Et il m'a dit, comme ça, il m'a dit, mais ce n'est pas n'importe qui qu'on met à la télé. Hein. Et il y a des gens comme ça, ils vont accepter ce qu'ils ont vu dans une émission à la télé et ils vont même pas aller chercher plus loin. C'est triste. Et ces gens ont des idées sur Jésus. Je pense qu'il vient de Galilée, mais il doit être né à Bethléem. Ils ne vont même pas chercher, se demander où est-il, il est vraiment né. Et ils rejettent facilement qu'il soit le Messie. Verset 43, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient même le saisir. Hein, ça, c'est pour le tuer. Mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers... Donc, c'est eux qui étaient envoyés par les chefs pour arrêter Jésus, mais ils retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur disent, ils ne sont pas contents, hein, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Et regardez leur réponse, regardez ce qu'ils disent, 46. « Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Vous voyez, c'est les paroles de Jésus, c'est la prédication de Jésus qui le distingue et qui crée cette division dans la foule. Et les pharisiens répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? C'est une insulte. Regardez encore leur argumentation, nous avons déjà vu, hein, il ne peut pas venir de la Galilée, il aurait su que cette femme est pécheresse. Voici un autre argument contre Jésus. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Là, on voit encore hein, la force de leurs arguments. Et là aussi, ils ne savaient même pas que Nicodème, parmi eux, croyait, mais en secret. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit... Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? Ils lui répondirent, « Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Et si vous pouvez trouver maintenant Matthieu 21, encore un passage qui démontre que la foule, pour un temps, du moins pour un temps, reconnaissait Jésus comme étant le prophète. Jean, à Matthieu 21, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant que la ville va le tuer. Mais les disciples, verset 6, Matthieu 21, 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville était émue et l'on disait « Qui est celui-ci ?» C'est la question la plus importante que vous puissiez vous poser. Qui est vraiment Jésus-Christ? Votre réponse à cette question déterminera votre éternité. Et la foule dit, verset 11, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et notez que ce n'est pas le prophète de Nazareth, comme s'il y a des prophètes d'ailleurs aussi. C'est le prophète, virgule, de Nazareth. En fait, dans l'original, l'ordre des mots dans le grec, c'est comme ceci. Ils disent, c'est le prophète, Jésus, celui de Nazareth. C'est la première identification qu'ils donnent. C'est qui celui-là? C'est le prophète, Jésus, celui de Nazareth. Il l'identifie comme étant le prophète. Alors, on va se rappeler maintenant de la question que les chefs ont posée à Jean-Baptiste. Est-ce que tu es le prophète? Et Jean-Baptiste a dit, non, je ne suis pas le prophète. Mais la foule dit, Hosanna au fils de David, c'est le prophète, Jésus, celui de Nazareth. Alors, jusqu'ici, nous avons vu seulement des spéculations des uns et des autres. Mais avant de voir ce que Jésus dit de lui-même et ce que les Écritures disent de Jésus, partons pour un moment dans l'Ancien Testament pour voir d'où vient cette anticipation pour le prophète. Pas seulement un prophète, mais le prophète. Et je vous demande de trouver Deutéronome chapitre 5. Dans la Bible, nous avons les cinq livres écrits par Moïse, Matthieu, Marc. Qu'est-ce que je dis là? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et nous voulons aller à Deutéronome chapitre 5. D'ailleurs, la loi, les 10 commandements sont donnés à deux reprises, en Exode chapitre 20 et ici en Deutéronome chapitre 5. Donc c'est la répétition des 10 commandements. Et regardez directement verset 22, Deutéronome 5, 22. « Telles sont les paroles que Dieu prononça, les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. » Moïse le rappelle de ce qui s'est arrivé en Exode 20. « Et Dieu les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. » Et Moïse parle au verset 23, Deutéronome 5, 23. « Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, « Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. » Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous mourrons. Quel homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Qui peut survivre la voix de Dieu? Hébreux 12, ne cherchez pas, mais Hébreux 12 revient sur ce moment. Il dit en Hébreux 12, 18 et, 20 et 19, vous, il parle aux chrétiens du nouveau, de la nouvelle alliance, vous ne vous êtes pas approchés de d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendèrent demandèrent qu'il ne le soit pas adressé une de plus. Hein, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont demandé qu'il ne leur soit pas adressé une parole de plus. Je ne pense pas qu'on peut apprécier correctement la sensation, que c'est, et ça c'est un fait historique, hein, d'entendre la voix de Dieu et de voir toute une montagne embrasée par le feu. Imagine ce que doit se faire à un cœur. Ils étaient convaincus d'une chose, si vous regardez au milieu du verset 25, si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Alors notez la solution qu'il propose à Moïse. Le rôle qu'il demande à Moïse de jouer dans cette nouvelle configuration. Ils disent, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à entendre directement la voix de Dieu. Voici ce que nous proposons. Regardez-le, Deutéronome 5, 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. C'est-à-dire, nous l'écouterons, mais dans ta voix, à toi, Moïse. Et notez la réaction de l'Éternel. C'est peut-être surprenant. Ils disent, on ne veut pas entendre directement de Dieu, on préfère entendre de Moïse. Mais toi, Dieu parle à Moïse, Moïse parle à nous. Regardez la réaction de l'Éternel, verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est quoi? C'est surprenant, ça? C'est pas souvent que Dieu dit ce qu'il disait bien. Mais là, Dieu approuve. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Ils ont besoin d'un médiateur. Ça, c'est le besoin ressenti, la nécessité d'un médiateur. Quelqu'un entre Dieu et eux. Dieu a commencé à donner cette alliance directement au peuple. Il écrit avec son doigt, il parle avec sa bouche. Mais grâce à leur requête, grâce à leur demande, Moïse deviendra le médiateur de cette alliance. Et il sera connu, comme toujours, pour le médiateur de cette alliance. Cette alliance sera même appelée l'alliance de Moïse. Alors, nous, on pense souvent qu'un prophète, c'est quelqu'un qui nous aide à nous approcher de Dieu. Alors, ça, c'est vrai dans un sens, mais ce n'est pas tout. Un prophète était quelqu'un qui permettait à l'homme d'entendre Dieu sans être tué par Dieu, sans que Dieu ait besoin de lui parler directement. Est-ce que ça lui amène la mort? Il faut qu'on apprécie la sainteté de Dieu. Il ne peut pas tolérer le péché. Si quelqu'un ici pense, ben, j'aimerais bien avoir une conversation avec Dieu. Il y a un philosophe qui, je crois, du 19e siècle, très connu en Angleterre, qui a dit, j'ai hâte de mourir et de dire à Dieu, pas assez de preuves. Imaginez l'orgueil. S'il y a quelqu'un comme ça, il dit, ben, j'aimerais bien avoir une conversation avec Dieu, ce serait intéressant. Cette personne a soit une trop haute opinion d'elle-même, soit une très très basse opinion de Dieu. Parce que parler directement avec Dieu s'avère mortel à l'homme pécheur. Et ils ont raison quand ils disent, verset 25, si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, de notre Dieu, nous mourrons. Et nous savons qu'ils avaient raison parce que Dieu dit au verset 28, j'ai entendu les paroles de ce peuple. Ils t'ont adressé tout ce qu'ils ont dit et Eh bien, ça, c'est le besoin. On a besoin que quelqu'un nous parle au nom de Dieu. On a besoin d'un médiateur. Alors, quelle est la promesse, donc? Et maintenant, je vous invite à trouver Deutéronome 18. Vous êtes déjà dans le livre de Deutéronome. Trouvez chapitre 18. C'est le même serment de Moïse, peu avant sa mort. Et ici, il y a une promesse qui est donnée. Et dans les versets 9 à 13, qu'on ne va pas lire, mais Moïse interdit certaines manières de trouver la volonté divine. Au verset 10 et 11, si vous regardez ces versets, il dit qu'on devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Hein, quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui évoute les gens, qui jette des sorts ou qui, d'une manière ou d'une autre, consulte les morts. Pas ça. Pas comme ça que vous devez chercher à entendre la parole de Dieu. Et le verset 14, c'est un verset de transition. Regardez 18-14. Car ces nations que tu chasseras, écoute, notez ce mot, écoute les astrologues et les divins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Ok? Eux, ils écoutent, ces astrologues, etc., mais à toi, Dieu ne le permet pas. Ce mot « écouter » apparaît 4 fois en Deutéronome 18. Il ne faut pas écouter ce qu'écoutent les païens, ce qu'ils disent, verset 14, mais il faut écouter le prophète que Dieu a envoyé. Regardez le verset 19, Deutéronome 18, 19. « Mais si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. » Ça, c'est une question donc de vie ou de mort. C'est très important, hein, ça mérite notre attention. Si on n'écoute pas les paroles de Dieu données par son prophète, Dieu va vous demander compte, c'est-à-dire vous allez mourir. Mais si un prophète parle faussement au nom de Dieu, ce prophète doit être mis à mort. Donc, le sujet, clairement, les paroles qu'il faut écouter et les paroles qu'il ne faut pas écouter. Il ne faut pas faire comme les païens, il ne faut pas non plus écouter les faux prophètes, il faut écouter mes prophètes, quand moi je parle. Votre vie en dépend. Alors, revenez au verset 15, Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, quoi ? Un prophète, dit Moïse, comme moi. C'est pour ça que j'ai donné le titre à ce serment, le prophète comme Moïse. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous voyez l'importance de l'écoute. Verset 16, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Rappelez, on a lu ça déjà. Et il dit, regardez le début du verset 16, il répondra ainsi à la demande que tu fis ce jour-là. Regardez le verset 17, l'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est, eh bien, il revient là-dessus aussi. C'est bien ce qu'ils ont dit. Donc, en réponse à leur demande, en réponse à leur prière, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc, Dieu parle à Moïse. Il dit donc une deuxième fois, un prophète comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors, notons bien que l'envoi de ce nouveau prophète comme Moïse est en réponse à leur demande. Hein, verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais qu'on n'entende plus directement la voix de l'Éternel. On a besoin d'un médiateur. il va répondre à cette demande. Que Moïse, un prophète, il dit, que Moïse. Dans quel sens est-ce que ce nouveau prophète sera comme Moïse? Je crois qu'on pourrait dire plein de choses, mais juste tiré de ce chapitre, on peut parler au moins de trois choses. D'abord, de son identité. Regardez le verset 18. « Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse. » Il va venir du milieu de tes frères. Moïse est né dans les mêmes conditions difficiles que tous les autres. Hein. Vous savez qu'il a failli mourir en tant que bébé. Mais en même temps, l'identité de Moïse est tellement complexe que pour s'identifier plus tard au peuple de Dieu, il doit renoncer aussi à la gloire de la cour, une gloire qui lui était offerte. Et il renonce à la gloire pour venir s'identifier à son peuple. Aussi dans son rôle de médiateur. Il dit au verset 18, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » C'est précisément ce que le peuple avait demandé. Ils ne veulent pas entendre directement de Dieu, ils ne veulent pas que Dieu leur parle directement. Ils veulent que Dieu mette ses paroles dans la bouche de ce prophète et que ce soit le prophète qui leur parle. Donc, il y ait ce rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'il y ait un médiateur. Il va répondre à ce problème, à ce besoin. Ce nouveau prophète aura ce rôle aussi de médiateur pour apporter au peuple la parole de Dieu. Et Dieu dit, c'est exactement ce que le prophète va faire. Et puis aussi, comme Moïse, dans son autorité. Il dit au verset 19, « Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Dieu dit, en somme, « Ton attitude envers les paroles de ce prophète déterminera la façon dont je te traiterai. Si tu n'écoutes pas mon prophète, je vais t'en demander compte. » Ça, c'est la promesse. Dieu suscitera un prophète comme Moïse. Alors, quel est donc l'accomplissement de la promesse? La promesse tenue. Jésus est ce prophète. Il est ce prophète, promis. Et il y a un passage très, très important, deux passages même en Luc, en Actes. Et j'aimerais que vous les trouviez avec moi. C'est important hein, que vous voyez cela pour comprendre l'identité de Jésus comme le prophète. Vous pouvez trouver dans vos Bibles Actes 3. Pierre ici parle, il prêche. C'est juste après un miracle qui a été fait dans le temple. Et il dit, acte 3, 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte, notez ces liens maintenant avec l'Ancien Testament, ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ ou son Messie devait souffrir. » C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient complètement loupé le fait que tous les prophètes avaient prédit que le Messie devait souffrir. C'est très clair en Isaïe 53, par exemple. Il dit donc, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Quand il dit qu'il vous envoie, il parle maintenant de la deuxième venue de Jésus. Pour qu'il revienne. Pourquoi? Où est-ce qu'il est? Eh bien, verset 21, que le ciel doit recevoir. C'est-à-dire, il est monté au ciel, il reste au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Et puis, verset 22, très important, regardez-le. Moïse a dit, est-ce que vous reconnaissez ces paroles? Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et notez comment le contraire est mis ici. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, il interprète ici. Hein. Dieu avait dit, je lui demanderai compte. Mais là, il nous explique ce que ça veut dire. Il sera exterminé du milieu du peuple. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et si vous ne l'écoutez pas, vous ne ferez plus partie du peuple de Dieu. Regardez verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, et notez ce verbe maintenant, Dieu ayant suscité son serviteur. Où est-ce qu'on vient de voir ce verbe? Vous pouvez mettre un trait entre ces deux mots. C'est exactement le même mot au verset, c'est quoi, le verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Verset donc maintenant 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur. Ça veut dire qu'il l'a fait maintenant. Il l'a fait. L'identité n'est pas en question ici, c'est Jésus. Et il l'a envoyé pour vous bénir. Comment est-ce qu'il vous bénit? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Ça, c'est la plus grande des bénédictions. Ouais. Sauvé de mes iniquités. Mais Dieu l'a fait, Dieu l'a suscité. C'est dans le passé maintenant. Ce prophète est venu. Dieu vous a suscité un prophète comme Moïse. Et le verset 25 dit, verset 26, Dieu ayant suscité son serviteur, c'est le même mot. Dieu a tenu sa parole. Il a suscité Jésus comme le grand prophète. Et Pierre n'est pas le seul à le dire. Dans la prédication d'Étienne, si vous voulez bien avancer juste quelques pages au chapitre 7, on a ce long serment d'Étienne juste avant sa mort. Hein, c'est le danger d'un long serment. Hein, ça peut finir dans la mort après. Mais Acte 7, 37, il dit, c'est ce Moïse, verset 37, Acte 7, 37, c'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et dans le contexte, il parle du fait que Moïse a été rejeté. Le prophète que Dieu a suscité en Moïse, il a été rejeté. Et ce deuxième prophète, il est rejeté aussi. Donc, sans aucun doute, Jésus est le grand prophète. Hein, nos amis les musulmans parlent du grand prophète. Nous devons aussi parler du grand prophète. Nous savons qui est le grand prophète que Dieu a suscité. Tous deux sont, Moïse et Jésus, vous pensez aux traits qui les unissent, tous les deux sont miraculeusement épargnés dans leur enfance. Hein, Exode 2, Matthieu 2. Tous deux renoncent à une cour royale pour servir le peuple de Dieu. Philippiens 2 dit que Jésus s'est humilié pour venir même sur la terre, Moïse aussi. Tous deux font preuve d'une intense compassion pour les autres. Tous deux communient face à face avec Dieu. Tous deux sont les médiateurs d'une alliance. Voyons que Jésus est le grand prophète comme Moïse. Mais ceci est confirmé par Jésus lui-même. Jésus est très conscient de son identité en tant que le prophète promis. Jésus parlait de lui-même comme prophète. Par exemple, en Luc 13, 33, il dit « Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Il dit « Je dois mourir à Jérusalem parce qu'un prophète doit mourir là, à Jérusalem. Je suis prophète. » Jean 4, verset 44, « Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » Il se voit comme prophète. Quand lors de son entrée à Jérusalem, il est identifié comme le prophète, il va dire aux chefs religieux qui lui disent « Il faut taire les gens. » Ils disent « S'ils ne crient pas, c'est les rochers, c'est les pierres qui vont se mettre à crier. » Et un peu plus tard, juste avant sa mort, il parle à Philippe en Jean 14, 8 à 11. Il dit « Philippe lui dit, « Seigneur, quelle est sa requête ? Vous connaissez ? Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » C'est tout ce qu'on demande. Montre-nous le Père. C'est époustouflant ce que Jésus lui dit. Il parle comme s'il est presque offensé. Il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que tu me connais. Non, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, quoi, a vu le Père. Il révèle le Père non seulement par les paroles qu'il dit ici et là, mais par tout son être. Le voir, l'entendre, c'est de voir et entendre le Père. Il est la parole qui révèle le Père. Il dit, comment tu dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dise, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous voyez, il est dans le Père est en lui. Quand il agit, c'est le Père qui agit. Ce n'est pas seulement que Moïse vient dire « Ainsi parle l'Éternel », comme disaient tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais Jésus, en fait, ne va jamais dire « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que quand il parle, c'est le Père qui parle. Il va dire « en vérité, quoi ? Je vous le dis. Vous avez entendu, mais moi, je vous le dis. » Il est tellement uni à son Père, il est le prophète par excellence, que quand il parle, c'est le Père qui parle. Et donc il dit, ce que je dis ne vient pas de moi, ce n'est pas de mon propre chef, c'est le Père qui est en moi qui fait ces choses. Je crois que la grande caractéristique du Christ en tant que prophète est sa conscience de l'infaillibilité de ses propos. Il parle, disait la foule, comme celui qui avait quoi ? Autorité divine, et pas comme les scribes. Il parle comme s'il est Dieu. Mais moi, je vous dis, les prophètes purement humains, comme Ésaïe, pense à Ésaïe au chapitre 6 de son livre, ils étaient intimidés dans la présence de la divinité. Ils tombent par terre. Mais le Christ ne montre jamais la moindre trace d'un tel sentiment. Personne, il a dit, ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, Matthieu 11, 27. Et cela implique donc une co-égalité avec le Père dans la connaissance du mystère de la Trinité. Le Christ parle à partir de la plénitude de son intuition immédiate. C'est-à-dire, il peut dire ce qu'il vient à lui. Nous, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas dire la première chose qui vient à l'esprit. Jésus peut dire la première chose qui lui vient à l'esprit, et c'est Dieu le Père qui parle. Il ne dit jamais « la parole du Seigneur m'a été adressée ». C'est dans l'omniscience, la connaissance de sa propre nature divine qui donne tous ses enseignements comme un prophète. Et donc il va dire « vous avez entendu que… voilà, » mais moi je vous dis, même si un homme regarde une femme, etc. Moi je vous dis. Il va dire plus tard à ses disciples « allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En lui habite toute la plénitude de la divinité, dit Colossiens 2, verset 9. Il est la source même pour les autres connaissances prophétiques. Il va ouvrir l'intelligence à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, Jésus, sans doute, se voyait comme le prophète. Par excellence, le dernier prophète. Mais c'est clarifié par l'évangile de Jean. J'aimerais regarder ici en Jean et puis en hébreu pour clore. Jean, vous pouvez chercher en Jean 1, mais vous connaissez probablement ses paroles par cœur. Il commence en disant quoi ? Au commencement était là la parole.
Parole ! Prenez ce mot « parole ». Par lequel Dieu se dévoile. Les paroles qu'un prophète donne. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et cette fonction prophétique de Jésus-Christ est résumée dans ce mot « lumière ». Il dit au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était là ». Lumière des hommes. Pourquoi ? Parce que la parole, elle apporte la lumière. Ta parole, a dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc quand la parole arrive, elle est la lumière des hommes et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole est la lumière. Et verset 14 dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de cette parole. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. » Et puis il y a ce contraste. « Car la loi a été donnée par Moïse. » On parlait des similitudes, mais voici le contraste. La loi a été donnée par Moïse. L'alliance de la loi est donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et puis, vous avez ce verset sur votre carte, vérité fondamentale sur la question de prophète. Personne, verset 18, n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est le rôle d'un prophète, faire connaître Dieu. Il est le prophète par excellence. Au point de dire, nul ne vient au Père que par moi. Vous pourriez dire beaucoup plus sur ça, mais il faut terminer. Il est magnifié par l'Épître aux Hébreux, son rôle de prophète. Jean commence en disant la parole. Et vous connaissez comment Hébreux commence ? Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières, quel est le verbe ? Parler. On n'a pas le mot parole ici, mais on a le verbe. Parler. Parler à nos pères. Parler. Prophète. On a la parole prophétique ici. Dieu parle par des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lui aussi, il a créé l'univers. Il y a des ressemblances avec Jean 1. Il nous parle par les prophètes, et là, il nous parle par le prophète par excellence. Il nous parle par son Fils. Et je veux terminer en lisant ce passage en Hébreux 12. Vous l'avez marqué. Hébreux 12, 18, il parle à des chrétiens de la Nouvelle Alliance et il dit, écoutez, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Ça nous fait penser à Horeb ici, qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et regardez le verset 21. Quel a été l'effet sur Moïse ? Moïse dit, voyez, le peuple, c'est comme ça, ce sont des maudits, mais moi... Regardez. Et ce spectacle était si terrible que Moïse même dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Ok, vous ici à Sarcelles, vous n'êtes pas, vous n'allez jamais avoir cette expérience. Et dans un sens, vous pouvez dire Dieu merci. Mais vous, regardez le verset 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Il parle ici des réalités qu'on ne voit pas, mais sont des réalités quand même au ciel. Des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ça parle aussi des anges, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits même parvenus à la perfection. Ça, c'est tous ceux qui nous ont devancés dans le ciel. On est d'une façon mystique même réunis avec eux quand on adore Dieu. Quand on vient devant Dieu, verset 24, nous sommes approchés de Jésus qui est quoi ? Il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, le sang de Jésus qui parle mieux de celui d'Abel. Et maintenant l'application. Et ça, c'est l'application pour nous aujourd'hui. On va terminer avec cette application. Okay, vous n'êtes pas venu à la montagne, vous aurez eu peur. Vous aurez demandé qu'il ne vous soit pas adressé une parole de plus. Vous êtes adressé, vous êtes devant Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui vous parle. Vous êtes dans la présence des anges.
Auquel, quelle est l'application? Verset 25. Gardez-vous. Gardez-vous de quoi? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Voyez, il parle encore. Par ses prophètes, par sa parole, par la prédication même de sa parole. Il parle et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Vous dites, oh, je peux refuser. Ok, lisez la suite. Lisez la suite. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé. Voilà une phrase maintenant qui devrait piquer chacun dans le cœur. Combien moins échapperons-nous si nous refusons d'entendre celui qui parle du haut des cieux? Nous sommes devant cette réalité céleste. Il nous parle du haut des cieux. Il est le prophète. Lui, dans la voix, ébranla alors la terre. Ça, c'était à Horeb. Oui, ça s'est passé. Oui, oui. Mais maintenant, il a fait cette promesse. Une fois encore, je le ferai. Ce n'est pas la dernière fois. Une fois encore, j'ébranlerai, mais non seulement la terre, mais aussi le ciel. Gardez-vous donc, verset 25, de refuser celui qui vous parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Qu'est-ce que Moïse a dit? Vous l'écouterez. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. Jésus est ce grand prophète. Mais les conséquences d'un refus sont terribles à imaginer. Vous êtes devant la vie et la mort. Chacun de vous, mes amis, vous êtes devant la vie et la mort. Vous choisissez soit de l'écouter en soumission, soit de le rejeter, de l'ignorer. Mais vous en paierez le prix parce que Dieu nous a parlé par son Fils. Et c'est comme Jésus a dit à ses disciples. Vous rappelez, ils étaient sur la montagne. Oh, ils étaient éblouis par l'expérience et Dieu, tout d'un coup, il doit tout l'enlever. Il n'y a qu'une nuée, il ne voit plus rien. Et Jésus dit ceci, mon fils bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Écoutez-le. Écoutez-le. Prions. Ô Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui et tu connais l'état d'esprit de chacun, chacune ici. Tu vois le cœur qui t'écoute, et tu vois le cœur qui t'ignore, qui méprise tes paroles, qui n'en font aucun cas. Ô Seigneur, nous prions que par ton esprit, tu les réveilles de leur sommeil spirituel, et qu'avant qu'il ne soit trop tard, tu leur donnes la soumission, même l'humilité intellectuelle et morale de venir devant le Seigneur Jésus et de l'écouter. Aide-nous tous, ces jours de Noël, de faire comme Marie, de prendre la meilleure part et de nous mettre tous les jours devant toi pour t'écouter parler. Prions ces choses au nom de Christ.